Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Le thème d'aujourd'hui porte sur les accords d'alliance politique de tout genre à des fins électorales au Niger. Depuis l'avènement de la démocratie au début des années 1990 au Niger, suivi de l'instauration du multipartisme et l'affirmation des libertés publiques, le paysage politique nigérien a connu diverses formes d'alliances. Et cela s'observe donc en période électorale où plusieurs partis politiques s'allient à un autre en vue de remporter les élections. Des alliances qui se font souvent sans tenir compte des tendances ou courants politiques. C'est donc pour comprendre ce phénomène qui est encore d'actualité que nous avons initié ce forum en vue d'analyser la question de création des alliances et de comprendre comment celles-ci peuvent contribuer à la construction de la démocratie et au-delà le développement du pays. Comment se forment les alliances politiques au Niger? Quels sont les différents types d'alliances? Quels sont les avantages et les inconvénients des alliances politiques? Ces alliances sont-elles régies par des tests juridiques au Niger? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Soule Hadji, politologue. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Maître Mahamane Bacha, coordinateur réseau Espérance. Bonsoir, maître.
Bonsoir, madame.
Je suis donc Fatih Zakari à la présentation. Je commence par Maître Mahamane Bacha, coordinateur réseau Espérance. Quel est l'objectif premier d'une alliance politique?
Les alliances politiques, il faut les comprendre comme étant une organisation, qu'elle soit interne ou externe aux partis politiques, puisque c'est d'eux qu'il s'agit en l'occurrence ici, en vue de conquérir et de gérer le pouvoir lorsque on se rend à l'évidence que par soi-même et à seul, on ne peut pas conquérir et gérer le pouvoir d'État. Donc, elle se forme soit sur la base de sensibilité en termes idéologiques ou pour des questions de convenance en termes stratégiques ou en termes d'enjeux. Donc, elle se forme très souvent à l'occasion de processus électoraux ou dans le cadre de la gestion du gouvernement en tant que tel. Et ça se voit surtout au niveau du Parlement lorsque l'enjeu est d'obtenir une certaine majorité pour faire passer les politiques ou en tout cas le programme du gouvernement qui est en place. Ces alliances-là doivent toujours être constituées autour des valeurs, autour des principes, autour des projets de société ou d'idéologie, mais dans la pratique, elles se constituent pour atteindre des objectifs fondamentaux donc qui sont liés aux ambitions des partis eux-mêmes qui les constituent.
Soule Hadji, vous êtes politologue, quelle autre définition faut-il donner à une alliance politique?
Moi, je pense que c'est toujours le processus de création d'une force politique compacte, dans la mesure où un parti politique tout seul ne pourrait pas gérer le pouvoir, ne pourrait pas, surtout que c'est parfois un mandat de 5 ans, donc il faut bien qu'il y ait des alliés. C'est comme un mariage, voilà. Donc tout seul on ne peut rien, mais avec une autre femme ou un autre homme, évidemment on est plus fort. Donc je pense que c'est cette logique-là qui domine et qui effectivement fait que on peut mettre en place une alliance de gouvernement, c'est-à-dire que la Russie, donc le parti généralement arrivé au second tour, en tout cas surtout le parti dominant, elle va chercher à prospecter dans tous les champs. Quelles sont les forces politiques, partis politiques notamment, ce type de l'aider pour pouvoir engranger un certain nombre de positions, donc de pouvoir. Et donc là-dessus, donc il va chercher d'abord ceux qui seraient proches de lui idéologiquement, en principe, là, donc cette dimension idéologique-là dont parlait Bacha tout à l'heure. Donc il va chercher donc à se rapprocher. Maintenant, à défaut, maintenant n'importe qui, parce que voilà, c'est le problème du pouvoir qu'il veut conquérir, donc c'est cette logique qui va pouvoir prédominer. Et à ce moment-là, donc généralement, il y a un accord sur la distribution ou la partition des postes, donc ministériels, directoriaux, ce que vous voulez, pour les partis donc qui sont alliés. On dit, bon, si vous m'appuyez, donc il y a telle offre qu'on va vous réserver. Donc cela va surtout mobiliser les partis politiques à s'investir physiquement dans la campagne électorale à venir, parce qu'il y a déjà une promesse, n'est-ce pas, donc de prébande à ce niveau-là. Et il y a aussi l'autre bord, ce sont des coalitions politiques. Et là, il s'agit d'un nombre de partis politiques qui vont pouvoir s'organiser pour pouvoir faire face aux partis dominants, aux partis en place normalement. Nous avons les deux cas au Niger. Nous avons donc le cas donc, d'une coalition qu'on appelle COP 21 au Niger. Pas de politique, de position politique qui veulent renverser quelque part le parti dominant. D'autre part, nous avons aussi donc, des alliances qui se tissent, sont tissées pour pouvoir arriver à remporter le pouvoir au second tour.
Bon. Et quelle analyse faites-vous des alliances politiques au Niger? Les responsables des partis politiques font-ils des alliances pour l'intérêt du pays ou bien pour leur propre intérêt?
Généralement, on suppose que c'est pour l'intérêt du pays, que ce n'est pas juste pour ses fins propre ou personnel, pour sa famille ou pour son quartier ou son village. C'est quand même la gestion d'une cité, donc d'une nation. C'est pour que donc, le plus grand nombre de gens puissent bénéficier des politiques mises en place, politiques sociales, économiques, financières, de toute nature, pour que donc il y ait un développement social à ce niveau-là. C'est donc le but principal. Bon, c'est sûr que ce n'est pas souvent cela qui est mis en avant. En tout cas, quand on voit les faits, quand on voit les faits, il y a plutôt... chez nous, on parle souvent de parents, amis et connaissances. C'est-à-dire qu'il y a donc une logique qui domine pour que mes parents, à mes connaissances, puissent avoir, être dans des conditions de développement, la propre ou personnelle en tant que telle. Donc il y a cette logique-là qui domine, mais quand dans l'ensemble, on ne peut pas dire que tous ou presque ont des logiques personnelles. Moi, je pense qu'il y a quand même, parmi nos hommes et femmes politiques, il y en a qui ont en tout cas l'esprit national ou patriotique pour que, en tout cas, ils œuvrent pour que le maximum de gens puissent bénéficier donc, des politiques qu'ils mettront en place une fois le pouvoir en main. Et bien sûr, qui dit politique dit aussi donc la sécurité. C'est quand même le premier droit quelque part de la vie, que les gens soient en meilleure sécurité, en meilleure condition physique, en meilleure condition de vie. Et donc là aussi, c'est un challenge. Et il ne faut pas donc désespérer des promesses parfois faites par ces hommes et femmes politiques.
Est-ce nécessaire une alliance politique dans un État démocratique?
Si toutefois un parti politique n'arrive pas lui-même à engranger le maximum de suffrages ou de députés, parfois, pour pouvoir constituer et pouvoir gouverner seul, il est obligé, n'est-ce pas, de s'allier à d'autres forces politiques. Et au Niger, c'est généralement le cas. On a déjà vu encore un parti politique depuis 90, en gros, chercher à remporter sous seul les élections présidentielles, par exemple. Il faut forcément des alliances, n'est-ce pas? Ou encore le primature, la ville aussi, il faut qu'il y ait alliance entre. Alors, on va parler de l'alliance entre le MLCD et le PNS d'Aria, qui a constitué une alliance et qui a formé donc un pouvoir exécutif, voilà, face au président Mossman à l'époque. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a le parti présidentiel qui a presque majorité. Bon, voilà. Mais bon, avec les réserves qu'on peut mettre sur le plan des forces électorales, tout ce que vous voulez. Mais dans l'ensemble, c'est forcément une alliance pour que, surtout que la dimension qui importe, ce n'est pas tant l'implication pour défendre le gouvernement que de pouvoir unir la nation. Parce qu'un parti politique, c'est juste une coalition d'individus, de divers milieux parfois, origines, ce que vous voulez. Maintenant, cette alliance, ça ouvre l'assiette donc nationale pour que les Nigériens, où qu'ils se trouvent, se connaissent dans ce gouvernement-là. Est-ce que c'est un peu ça? Le but, ce n'est pas juste d'avoir un parti politique, voilà, j'ai du pouvoir, non. C'est pouvoir impliquer d'autres Nigériens, d'autres sensibilités et autres, pour qu'ils puissent eux aussi, n'est-ce pas, être reconnus par ce pouvoir-là. Donc c'est vraiment pour pouvoir élargir, créer une unité nationale. Bon, c'est un parti politique n'a que ces hommes et femmes pour gouverner, c'est pas la peine. Il faut bien qu'ils s'ouvrent pour que vraiment il y ait une légitimité sociale et donc pouvoir gouverner avec beaucoup de bonheur pour le peuple.
Et sur quelle base les alliances politiques devraient-elles être conclues?
Bon, sur quelle base? Généralement, c'est sur la base d'intérêts propres, donc des partis politiques, partis qui font l'offre donc d'alliances. Parce que vous savez, il y en a qui sont des partis politiques qui n'aspirent pas à être premier ou à diriger. Ce sont des partis de gouvernement, comme on dit, c'est-à-dire des partis qui sont en appui, en appoint. Eux, ils sont là, juste là, ils concourent pour que les partis dominants les appellent. Et donc, négocient donc avec eux. Sinon, ils n'ont pas pour ambition d'être Premier ministre, d'être président. Non. Là, c'est, ils savent qu'ils ne seront jamais président, ils ne seront jamais Premier ministre. Donc maintenant, ils vont pouvoir être donc des forces d'appoint pour les partis dominants. Et à ce moment, donc, ils vont pouvoir mettre maintenant sur la table et donc, des conditionnalités peut-être liées au poste ministériel pour leurs militants, peut-être parfois sur des offres diplomatiques, donc l'ONU, je ne sais pas quoi, l'Union européenne, enfin, ce que vous voulez. Donc, il y a tout cela. Donc ce sont vraiment des enjeux parfois donc liées au poste, donc on appelle donc le préman, c'est-à-dire donc aux avantages liés à la fonction, donc qui effectivement détermine donc les alliances. Maintenant, d'autres types d'alliances peuvent être niées par la nécessité, enfin, d'un enjeu, on va dire national, c'est-à-dire exemple, les partis à idéologie tout à fait opposée peuvent s'unir pour pouvoir battre un adversaire dangereux.
Merci, docteur Soulé Hadji. Donc, je reviens vers le juriste Mohamed Bachar. Mohamed Bachar, que prévoient les textes à propos des alliances politiques?
En vérité, du point de vue des textes, il y a une certaine liberté, puisque quand vous prenez l'article 9 de l'autre constitution, il a dit que dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la présente constitution, les partis politiques, les groupements de partis politiques, les syndicats et autres associations peuvent se constituer librement. Donc, l'alliance, par essence, c'est une association des partis politiques, donc un regroupement d'acteurs politiques autour d'un enjeu, autour d'un projet, autour d'un programme, en principe. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue légal, en tout cas, rien n'empêche à ce que des partis politiques donc se constituent en groupement ou en alliance, puisque c'est le mot usité ici, pour parvenir à conquérir ou à gérer le pouvoir d'État. Cependant, du point de vue éthique, du point de vue de la sociologie politique, le professeur l'a soulevé tout à l'heure, il était souhaitable à ce que les partis ayant la même idéologie ou en tout cas qui professent les mêmes principes politiques et puissent se retrouver autour d'un projet de société commun qu'ils défendent ou d'un programme politique donc qu'ils défendent et qu'ils promettent de pouvoir mettre en œuvre une fois le pouvoir conquis. Mais comme vous l'avez aussi remarqué, à l'heure actuelle, dans nos pays africains et même ailleurs, de plus en plus, les partis ne sont pas très idéologiques. En tout cas, souvent, que ce soit dans leur gouvernance, que dans les alliances qu'ils tissent. Beaucoup même de politologues parlent aujourd'hui de ce qu'on appelle le catch-all party, c'est-à-dire les partis attrape-tout, et dans lesquels vous trouvez des gens de sensibilité libérale, des gens de sensibilité communiste, des gens de sensibilité socialiste, des gens de sensibilité diverse, en tout cas, qui se regroupent dans les partis politiques. Et ces mêmes types d'alliages et remarquer lorsqu'il s'agit de constituer les alliances, donc en termes de coalition des partis politiques pour conquérir le pouvoir et pouvoir les gérer. Mais ce n'est pas la constitution d'alliances en tant que telle qui constitue le problème, puisque très souvent, elles sont formées autour des enjeux majeurs, comme l'a soulevé tout à l'heure le professeur Hadji. Et en vérité, la première préoccupation, c'est d'abord conquérir le pouvoir. Et soit on est en face d'un pouvoir fort qui aura fait déjà des années au pouvoir, il faut le démanteler, ou bien alors on la constitue pour consolider le pouvoir qu'on a déjà. Donc, dans l'un comme dans l'autre cas, la lutte est très âpre. Et malheureusement, au lieu que ça se fasse substantiellement sur la base d'engagement donc idéologique, d'un engagement de faire le bonheur aux citoyens, d'un engagement en tout cas de venir avec un projet de société solide qui assure à la fois la sécurité, le bien-être pour tous et l'égalité des citoyens devant la loi et devant les services publics, la préoccupation très souvent et même la motivation par laquelle ils parviennent à mobiliser ces partis appendices là ou ces partis d'accompagnement, c'est autour des partages. Donc, on regarde dans le pays, on va faire combien de ministres. Récemment, vous avez vu, on a eu dans les plus de 40 portefeuilles ministériels. Tout ça, là, parce qu'il faut satisfaire chacun des alliés. Et après, il faut regarder, on a combien d'offices, combien de sociétés d'État, combien de directions générales, combien de marchés à distribuer.
Oui, mais est-ce que cela est permis par la loi?
Non, mais justement, cela n'est pas permis par la loi. Personne, aucun des partis politiques ne vous dira qu'il a constitué son alliance sur la base des partages. Oui. Ils ne les diront jamais, mais dans les faits, on constate que tout celui qui vient, c'est pour trouver sa part du gâteau d'abord. Puisque les partis, malheureusement, à l'heure actuelle dans nos pays, de plus en plus, on est dans une démocratie férocement libérale. Et parce qu'elle est libérale, donc elle exige ou elle impose une certaine utilisation, parfois disproportionnée, de l'argent. Parfois du point de vue rationnel, et parfois du point de vue même, inadapté, inapproprié. Parce que du point de vue rationnel, vous ne pouvez pas avoir une association de type politique et ne pas pouvoir dépenser. Vous avez les charges du siège à assurer, vous avez les charges du personnel, normalement si vous êtes un vrai parti, vous avez les charges de la campagne elle-même. Puisque de ce point de vue-là, pour éviter les dérapages, la loi a prévu de quotité que vous ne pouvez pas avoir de l'extérieur et que quelqu'un ne peut pas financer. C'est-à-dire, le financement de votre campagne devait ressortir de la cotisation et de contribution de vos membres pour légitimer l'action politique parce qu'elle doit avoir une vocation d'intérêt général. Malheureusement, dans les faits, oui, du fait de ces vicissitudes économiques et du fait de ces exigences en termes financiers, ces partis-là deviennent de propriété des individus.
Donc, maître, après ce que j'ai compris, les lois, donc les tests juridiques ne sont pas respectés donc, au Niger dans ce sens.
Ils sont respectés en ce qui concerne la liberté d'association. C'est-à-dire, ils peuvent se constituer en association politique, puisque, de par l'article 9, dans sa compréhension, il n'y a pas d'exigence en termes de convergence, d'idéologie, etc., pour se constituer en coalition ou en alliance. Mais c'est du point de vue éthique, du point de vue donc de l'éthique politique. Normalement, un parti de gauche ne peut pas être avec un libéral, puisque les idéologies sont antinomiques, sont totalement à l'opposé. Et comment ils peuvent faire un programme de société, un programme de gouvernance qui puisse être cohérent? Puisque l'un dit que l'individu est fort et qu'il faut développer le libéralisme, il faut développer l'entreprise privée, il faut développer les personnes, il faut développer le potentiel humain. L'autre dit que non, il faut que chacun accède à la satisfaction de ses besoins et à la hauteur de ses capacités, à la hauteur des besoins dont il a. Il faut qu'il y ait un partage équilibré, équitable des ressources publiques. Il faut qu'il y ait une égalité des citoyens devant la loi et devant la charge publique. Le discours n'est pas le même, mais pourtant, lorsque les enjeux d'accession au pouvoir donc se posent, on met à l'écart tous ces différents éléments-là. On dit l'objectif, c'est d'abord de conquérir le pouvoir. Une fois le pouvoir conquis, on verra comment on va faire. Mais dans les faits, vous avez vu, dans les pratiques gouvernementales, finalement, c'est le divorce qui intervient après un certain chemin. Parce que les énergies ne sont pas les mêmes, les visions ne sont pas les mêmes. Il y a eu un acte donc qui a été posé pour atteindre un objectif fondamental.
Maître, nous avons constaté des alliances qui se créent avant et après des élections. Est-ce qu'il y a un moment donné à partir duquel il est permis ou interdit de conclure des alliances politiques?
Bon, a priori non, puisque du point de vue légal, on peut le faire en amont comme en aval. Il y a eu des partis qui se sont engagés dès le premier tour, non seulement à s'abstenir d'avoir un candidat au présidentiel, mais de soutenir un des candidats. Et cela est permis par la loi, comme et à partir du second tour, il y a des partis qui vont se rallier à l'un ou à l'autre des camps selon leur propre vision et selon les propositions qu'on leur fait. Tout à l'heure, le professeur l'a signifié. Et c'est-à-dire, quand on vous invite à une alliance, on vous dit déjà ce que vous gagnez. Et donc, si vous comparez, vous voyez ce que l'un vous donne et l'autre vous donne. Donc, c'est en fonction de ça, vous faites votre choix. Mais il faut aussi notifier l'extrême pression qu'il y a sur les leaders. Et c'est pour ça qu'il faut leur trouver quand même un minimum d'excuses par rapport à cet aspect des choses-là. Puisque tous ceux qui vont venir dire qu'ils vous soutiennent, en vérité, eux aussi, ils ont fait leur calcul dans le soutien qu'ils vous apportent. Donc, ils calculent que si vous parvenez à aller dans une alliance où vous parvenez à gagner le pouvoir d'office, il y a quelque chose que vous devez leur permettre, que vous devez leur promettre, qui constitue le moteur de leur mobilisation, qui constitue le moteur de leur engagement. Donc, c'est un échange, malheureusement, qui est réel, qui s'est fait comme ça, qui est différent
de l'engagement de l'électeur à la base qui vient lui juste en toute sincérité voter pour un programme auquel il croit. À partir d'un certain niveau, ce n'est pas ça qui prédomine, c'est les intérêts. C'est les intérêts en termes d'extrapotin, en termes de prébande, en termes de position et les rentes que ces positions-là justement engrangent ou permettent d'engranger. Donc de ce point de vue-là, il y a des difficultés pour nos démocraties et il faut le dire. Et je pense que de ce côté-là, si il y a une défaillance qu'on aura marquée, nous tous ceux qui se sont engagés depuis les années 90 dans les luttes démocratiques, c'est de n'avoir pas pu justement faire en sorte que on n'arrive pas à ces déviances politiques que nous constatons à l'heure actuelle. La politique est devenue une affaire, c'est devenu un marché, c'est devenu vraiment une activité hautement lucrative par laquelle les gens se réalisent à titre individuel.
Merci, maître. Docteur Souley Hadji, quelle appréciation faites-vous des alliances politiques au Niger?
Bon, tout à l'heure, vous parliez, est-ce que c'est autorisé ou pas? J'ai cru comprendre que peut-être que c'est par rapport à ce qu'il disait sur la dimension libérale de notre démocratie, que c'est sur le financement parfois occulte, n'est-ce pas, des partis politiques, des campagnes électorales, mais parfois on ne sait pas d'où sort l'argent, parce que vous avez bien vu que les militants ne cotisent pas en tant que tels, donc les partis politiques vont parfois à l'extérieur chercher quelques fonds, on a vu ça au Niger, des missions conduites ici et là pour aller chercher l'argent pour la campagne électorale, présidentielle notamment, parfois ce sont des réseaux mafieux, drogues parfois, auxquels recours pour pouvoir financer la campagne, ça passe pas au Niger, mais ailleurs, on considère vraiment ça. Oui. Donc il y a plusieurs sources de financement, parfois occultes, et parfois frauduleuses. Et donc l'État n'a aucun contrôle là-dessus. Donc le parti politique va chercher son argent, entre guillemets, vient, il investit, il rémunère les fonctionnaires des médias, ceci, cela, voilà. On ne sait pas d'où sort l'argent. Voilà, c'est vraiment tout à fait opaque. Donc il gère. L'État ne peut pas s'immiscer. Or, c'est avec ça quand même qu'on va choisir votre président de la République. Que, voilà, c'est avec cet argent sale, l'argent qui n'est pas du tout vraiment propre, qu'on va pouvoir amener les gens à choisir un président de la République. Et donc, à être dépendant de ceux qui financent à l'extérieur. Si vous financez de l'argent, vous financez les partis politiques et que le président, vous allez avoir une mise forcément sur le président de la République, en tout cas sur l'équipe. Voilà. Donc, il y a tout cela effectivement, qui montre que dans un pays, il y a parfois des quotités fixes. Par exemple, aux États-Unis. Quoi que c'est ça que vous voulez que vous parliez. Donc, on ne dépasse pas ce montant-là. Bon, voilà, généralement, c'est ça. Donc, ça c'est la loi, comme on dit. Voilà. Maintenant, de manière opaque, mais ma foi, en sous-main, il y a plusieurs millions, milliards qui circulent et auxquels l'État n'a aucun contrôle là-dessus. Maintenant, quelle alliance qu'est-ce qu'il fait les alliances? Mais les alliances sont tout à fait, je crois, tout à fait normales. Tantôt, on a dit que c'est pour d'abord l'unité nationale, un parti politique. D'abord, lui-même, pas de politique, c'est d'abord une structure, on va dire, qui à la fois unifie et divise. D'abord, qui divise, dans la mesure où plusieurs citoyens ne sont pas dans le même parti. Il y a d'autres partis politiques. Donc, c'est pour parfois des familles, parfois des villages. Voilà. Pas de politique divise. Par définition, dans la démocratie politique, en tout cas, dans la démocratie libérale, pas de politique sont des structures qui divisent les citoyens. C'est la base d'idéologie, ce que vous voulez, programme, voilà. Mais c'est surtout les structures qui unifient. Voilà. Elles unifient plus que les divisent. Unifier, c'est quoi? Unifier, c'est qu'au sein du parti politique, vous trouvez tous les nationaux, tous les Nigériens, les riches et les pauvres, les Hausa et les Germains, les Peuls et les Gourmandiers. Voilà. Tout le monde peut se retrouver, voilà. Des grands et des petits, des hommes et des femmes. Oui, tout, c'est ça. Donc, c'est la seule structure qui est capable de pouvoir rassembler tout le monde, tout un peuple. Oui, tout un peuple. Donc, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le clan, ce n'est pas le village qui est limité. Là, c'est une structure qui transcende tout cela. Donc, c'est positif d'avoir un parti politique qui puisse m'en prendre en charge donc, le destin d'un pays. Ce sont les mieux qualifiés pour pouvoir gouverner dans la démocratie.
Nous entamons à présent la deuxième partie du forum consacrée aux avantages et inconvénients des alliances politiques. Toujours avec notre politologue, Dr Souley Hadji. Quels peuvent être donc les avantages liés donc à ces alliances entre politiques?
Les avantages, c'est d'abord de chercher à mettre en place un gouvernement. C'est-à-dire que sans alliance, il ne peut pas avoir de gouvernement. donc on va pouvoir trouver un pays qui va on a vu ça souvent en Israël ou ailleurs, ouais, pardon, voici moi un an, il n'y a pas de gouvernement parce qu'il n'y a pas d'alliance, voilà. Donc c'est ça. Et deuxièmement, c'est la stabilité politique, voilà. Un pays qui a une alliance donc stable politiquement, que ce soit durée, une stabilité politique, donc il y a des investissements, donc pour entrer, les gens veulent venir investir, donc voilà, les gens sont rassurés qu'il y a un gouvernement avec qui on peut dialoguer, qu'il y a une garantie, il y a un pouvoir politique, voilà. Donc tout ça c'est important, donc c'est nos avantages en tant que tel. Et troisièmement, on va dire aussi que les alliances servent à quoi aussi? Ça sert aussi à souder les citoyens. Les citoyens sont tout à fait maintenant en mesure de pouvoir coopérer entre eux, quel que soit leur parti politique. Dès qu'il y a alliance, maintenant, ils sont dans le même projet de société que par de société. Donc le projet va donc mobiliser pour qu'ils aussi s'impliquent au niveau local, régional, ce que vous voulez, pour pouvoir gouverner la cité. Donc, aussi bien donc, au niveau donc, des communes, des mairies, ce que vous voulez, donc, ils sont maintenant présents pour pouvoir apporter leur pierre, pardon, au développement donc, national. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait positif qu'une alliance de partis, de gouvernement, et qui, surtout, que dans le contexte, on va dire, nigérien, c'est nécessaire dans la mesure où l'État et quelque part le seul pourvoyeur de richesse et de développement. C'est-à-dire que c'est pas le privé, on va dire le privé chez nous est à fait dérisoire. Donc celui qui garantit vraiment l'emploi, la richesse, le développement, c'est l'État. Donc il faut que l'État puisse avoir donc ces ressources-là d'alliance pour pouvoir fonctionner mieux. Parce que notre secteur privé, on l'a dit, est dérisoire. Donc c'est pas lui qui occupe beaucoup de gens.
Merci, docteur Soulet. Maître Mamadou Bachar, le Niger a connu plusieurs formes d'alliances politiques que certains appellent même des alliances contre nature. Quelles conséquences pour le Niger?
Bon, évidemment, nonobstant les avantages qui sont évoqués tout à l'heure, et évidemment, les insuffisances ou les inconvénients de ces alliances, c'est que souvent, elles pervertissent, en tout cas, les mœurs politiques, en démontrant que en fait les partis peuvent se soustraire de leur engagement de défendre un projet de société précis sur la base duquel leurs adhérents ont eu à soutenir le parti, ont eu à voter pour le parti. Une promesse en fait rompue. Puisque très souvent, et à partir de certaines alliances, les militants sont déboussolés. Je vous donne l'exemple de la première alliance qu'il y a eu suite au départ du PNDS de l'AFC, où ils ont constitué la nouvelle majorité avec le MNSD. Et beaucoup de militants s'étaient retrouvés désemparés parce qu'ils ne comprenaient pas le MNSD qu'ils étaient en train de critiquer pendant tout le processus. Et ils l'ont combattu et on est parti aux élections de 93. Et maintenant, subitement, en 95, ils disent que c'est avec lui qu'ils vont constituer un gouvernement juste pour pouvoir régler les choses aux autres camarades, en fait, de l'AFC. Donc, vous voyez, ça perturbe, en fait, le militant, parce que lui, quand il adhère au parti politique, il adhère soit à la social-démocratie, ou il adhère au socialisme, ou il adhère au communisme, ou il adhère au libéralisme, etc., etc. Maintenant, quand il voit comment les recompositions se font, il est déboussolé. Il s'est dit, mais finalement, cette affaire-là, ce n'est plus une affaire d'idéologie, ce n'est plus une affaire de principe, c'est même plus une affaire d'intégrité politique. Et donc, bon, puisque c'est ainsi, moi-même, en tant que militant, désormais, et donc j'irai dans le sens de mes propres intérêts. Et donc, c'est pour cela, vous allez voir, quelqu'un, il est dans un parti défini, il va soutenir le candidat d'un autre parti qui est, lui, lié à lui par des liens de parenté ou par des liens d'intérêt particulier ou par des liens, en fait, de promesses. Et par le passé, ça n'existait pas, puisque si vous rappelez dans l'histoire entre le PPN-RDA et les Sawaba, comment la lutte était vraiment assez âpre. Et parfois, vous allez voir dans la même famille, et les uns sont du PPN-RDA, d'autres sont des Sawaba, et chacun tient mordicus à l'opinion à laquelle il a adhéré. Et les gens se défendaient. Mais à partir de 95,
96, quand il y a eu cette alliance-là, beaucoup s'étaient déboussolés et les gens se sont même dit, mais pourquoi les gens de Jeratawa se sont laissés mourir à cause d'une adhésion à un parti politique. Comme vous le savez, à Jeratawa, il y a eu des militants de Sawaba qui étaient enfermés dans une cellule. Ils mouraient un à un comme des mouches. Et ils refusaient en fait d'adhérer au PPN-RDA d'alors. Parce que simplement, ils ont juré fidélité à leur parti politique. Ces genres de militants-là, aujourd'hui, ils n'existent plus. Donc, finalement, ces alliances-là, c'est la conséquence qu'ils donnent en termes de perversion de mœurs politiques. Deuxième inconvénient des alliances, c'est dans la mise en œuvre du projet ou de programme politique. Et puisque vous n'avez pas les mêmes idéologies, vous n'avez pas les mêmes types de militants, ils n'ont pas les mêmes orientations, donc bon, finalement, il n'y a que les intérêts qui sont compréhensibles par chacun. Les visions sont mises de côté parce que vous ne pouvez pas expliquer les visions et puis les... Non, dites simplement qu'est-ce que l'un gagne et qu'est-ce que l'autre gagne et finalement vous vous entendez sur ça qui est le minimum sur la base duquel vous allez fonctionner. Donc ça c'est un inconvénient. La politique devient alors un marché, devient quelque chose sur lequel on attend une rémunération ou un retour sur investissement ou en tout cas une rétribution immédiate par rapport à soi-même alors que en principe, c'est un engagement volontariste, désintéressé autour des idéaux, des principes et des projets de société auxquels on croit. Maintenant, le troisième et le dernier inconvénient majeur, en tout cas qu'on voit dans les alliances, c'est du point de vue de la pratique. Vous allez avoir dans des administrations des gens provenant de différents partis politiques, chacun se prévalant d'une légitimité. Donc, vous pouvez avoir un subordonné à vous, c'est-à-dire un collaborateur, qui doit normalement vous rendre compte, mais il rend compte plutôt au leader de son parti politique. Donc, il peut arriver que vous soyez un ministre dans un ministère et que vous ne parveniez pas à gérer votre propre secrétaire général ou un DG, parce que lui aussi, il est venu, disons, à ces postes-là, par un processus de partage, donc qui a attribué à son parti ces postes-là. Donc, il ne se sent pas du tout redevable et comptable devant vous. Donc, ça crée quand même un dysfonctionnement, et ce dysfonctionnement est réel. Et enfin, vous avez vu la logique de partage que le système d'alliance crée. Et malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, il y a lieu simplement que les politologues pensent vraiment dans quelle mesure ils vont aider les partis politiques à être un peu plus éthiques dans ce qu'ils font pour que la morale sociale ne se trouve pas galvaudée et que finalement tout un chacun pense ou penserait que en fait la politique c'est juste un jeu de partage de gâteaux entre les adhérents.
Okay. Donc l'inconvénient majeur aussi quelque part, c'est que l'administration devient politisée. Voilà. Ça, c'est quelque chose de tout à fait dommageable quand il y a alliance. C'est-à-dire qu'on met la compétence, le mérite, après donc, n'est-ce pas, l'adhésion à part politique, après l'approche par ami connaissance, avec des gens qui ne sont pas forcément militants, mais qui sont compétents. Ceux-là, on les met de côté, on les marginalise pour prendre des militants qui sont pourtant médiocres. Donc, vous voyez, donc, c'est l'État qui perd. L'État qui perd, donc, à ressources humaines. Au lieu d'utiliser les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, on va pouvoir prendre des tocards, on va dire, pour les placer à des postes vraiment importants. Donc, ça, c'est vraiment un gâchis que l'Alliance a eu à produire.
Et le gouvernement pléthorique.
Voilà, tantôt, on parlait de 40 députés. 45, ouais, donc, c'est aussi une conséquence négative. Donc, forcément, donc, c'est aussi un impact donc, budgétaire. On dit donc d'investir le budget là, consacré au ministère dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la jeunesse. On va pouvoir alimenter les fonds des individus ou des partis politiques en tant que tel. Donc, c'est vraiment à gagner pour l'État là aussi.
Allez, merci. Et la création des alliances politiques au Niger, cette problématique n'a pas laissé indifférent ces citoyens qui estiment que les alliances et coalitions politiques ne se basent que sur des intérêts personnels. On les écoute.
Nous avons pratiquement assisté à toutes les alliances, de telle sorte que les citoyens ne sont jamais surpris de quel que soit le type d'alliance qui va arriver. Le plus important, c'est que les partis politiques apprennent désormais à mettre beaucoup plus en avant l'intérêt supérieur de la nation.
Les alliances pour leur propre intérêt, là, si ils font ça, c'est pas bon. Mais si ils font ça pour l'intérêt du peuple, ça, c'est aimer son pays, aimer sa nation. Et je fais un appel à la population et aux leaders politiques, vraiment de faire pour un objectif que le Niger va de l'avant.
Généralement, au Niger, les alliances qui sont louées sont plus des alliances pour des intérêts personnels que pour l'intérêt du pays. Donc, généralement, les leaders politiques penchent du côté où ça les arrange pas, où ça. Il y a vraiment beaucoup d'alliances de contre nature, comme on dit.
J'appelle les candidats, j'appelle aussi tous ces partis politiques-là qui se rassemblent actuellement pour former une ou des alliances de partis politiques pour soutenir un candidat de leur choix, vraiment de penser à l'intérêt national, de penser à l'intérêt du pays, de penser à la souffrance de la population, de penser à ces démunis, de penser à ces personnes pauvres qui n'ont rien et qui n'arrivent même pas à manger trois fois par jour, de penser là où il n'y a pas d'information, de penser là où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas d'électricité, là où il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas d'hôpitaux, là où il n'y a pas vraiment une vie aisée, que ces alliances et partis politiques arrivent à penser à cela pour que le Niger vraiment puisse retrouver sa lettre de noblesse.
Au Niger, le problème des alliances politiques là, vraiment c'est un sérieux problème. Parce que les alliances qu'on a connues depuis que la démocratie s'est installée au pays n'ont jamais répondu aux aspirations du peuple. Jamais. C'est toujours des intérêts individuels qui sont visés. Et même, il faut voir des trucs de partage, des histoires comme ça, tout ça là. C'est en réalité, c'est le pays qu'on est en train de ruiner comme ça. Il faut que ces alliances-là s'arrêtent. S'il y a une possibilité d'arrêter ce truc-là, vaut mieux que le peuple vraiment arrête ça. Sinon, les alliances-là, c'est des alliances contre nature. Aujourd'hui, ils vont commencer ensemble, deux jours après, ils vont se dire que non, non, ça ne va pas, l'autre m'a volé, l'autre m'a fait ceci, cela, et puis ça. Vraiment, ce n'est pas bon. Que Dieu aide le Niger, vraiment.
Vous venez là donc de suivre la réaction des citoyens relativement donc à la création des alliances et coalitions au Niger. Chers invités, quelles sont vos réactions?
Bon, les réactions sont légitimes de tous ces concitoyens parce que c'est leur perception ou leur analyse, en tout cas, de ce qui se passe. Ils confirment que les alliances sont souvent contre nature. Ils sont fondés plus sur les intérêts particuliers de ceux qui les constituent que sur l'intérêt général, et qu'ils appellent véritablement à un sursaut donc national pour que les gens pensent à tous ces démunis-là de ces pays, ceux qui ont besoin d'eau, d'électricité, en tout cas d'un minimum de bien-être, avoir l'emploi décent, avoir etc. Mais au-delà de cette analyse-là, il faut aussi se demander quelle est la part assumée des citoyens dans ce qui se passe, puisque les dirigeants sont aussi les reflets de ce qu'ils dirigent. Et je prends un exemple. Tout le monde sait qu'en adhérant à un parti politique, il sait que le parti politique doit fonctionner. Et le fonctionnement de ce parti-là doit s'appuyer principalement sur les frais d'adhésion, les cartes du parti et les participations. Et combien de citoyens et combien de partis aujourd'hui qui sont à mesure de présenter même une comptabilité dans notre pays? Si les citoyens adhèrent à des partis politiques et s'attendent à ce que le leader soit un distributeur de billets, donc il faut qu'ils s'attendent aussi à avoir en face d'eux un leader escroc qui va aller à leur nom chercher de l'argent et venir le redistribuer. Parce que tout simplement, c'est comme cela seulement que les gens comprennent leur engagement politique. Donc s'il y a une rectification à faire, c'est d'abord à la base, au niveau de nos concitoyens, pour qu'ils parviennent à prendre entre leurs mains leur parti politique. Au lieu que le parti politique soit la propriété des leaders, il faut qu'il soit plutôt la sommation donc des citoyens qui viennent, qui adhèrent à l'idéologie que le parti professe ou au projet de société que le parti politique propose. Et là, dans ces conditions-là, tout le monde payera
ses frais d'adhésion, tout le monde payera sa carte du parti et tout le monde payera ses participations en fonction des besoins. Quand, par exemple, on a besoin de faire un meeting dans une commune, les militaires ne doivent pas s'attendre à ce que les leaders viennent avec une mallette d'argent pour non seulement payer les prestataires, mais aussi eux-mêmes leur donner de l'argent. Donc, si les mentalités ne changent pas à ce niveau-là, mais dans une démocratie libérale, puisqu'il faut dépenser de l'argent, les leaders vont aller chercher cet argent-là. Et quand ils le cherchent, ils le dépensent, ils doivent garantir qu'il va remplir la mission pour laquelle on lui a donné cet argent-là. Il doit remplir sa part de marché. Et c'est pour cela que, en situation de ces alliances-là, dans certains cas, certains exigent même le remboursement de leurs dépenses électorales. Et c'est là, c'est la base d'abord. Donc on met ça sur la table, on vous rembourse et maintenant on prend de nouveaux engagements.
Merci. Docteur Assoulé Agi, comment réagissez-vous par rapport donc, à l'intervention des citoyens?
Effectivement, c'est tout à fait légitime. Ces acteurs, ces citoyens ne mettent pas en cause les alliances. C'est nécessaire. Seulement, elles dénoncent les excès et les abus qui peuvent être source de problèmes budgétaires pour les secteurs sociaux. Parce que là, si on alimente les partis politiques, pas les alliances, le nombre de ministères, le nombre de directions, de cabinets, de sous-directeurs, voilà, plusieurs niveaux hiérarchiques. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour les secteurs sociaux. Donc ça, il faut donc au maximum que l'on réduise les alliances afin donc de ne pas pouvoir développer des postes donc étatiques, parfois folkloriques, vraiment parfois même des doublons. On connaît plein de doublons là, que ce soit des ministères, que ce soit des postes, voilà. Donc tout cela, il faut éviter cela. Et deuxièmement, il faut aussi que les citoyens fassent un contrôle citoyen, contrôler l'action du gouvernement ou responsables ministériels, politiques, communaux, pour que donc faut pas qu'ils, comme l'a dit, s'en écartent, il faut qu'ils soient présent, s'implique pour pouvoir contrôler la gestion de ces cadres-là, fonctionnaires-là notamment, pour ne pas donc les laisser carte blanche, n'est-ce pas ? Il faut qu'ils aussi regardent pour dénoncer éventuellement les dérives, les abus qui sont commis. Et là, je crois que si donc, les citoyens s'impliquent, en tout cas s'impliquent beaucoup, il y aura moins de dérives, moins de problèmes à ce niveau-là.
Nous clôturons donc à ce forum avec la troisième partie qui est donc consacrée aux suggestions et propositions. Nous sommes presque au-delà donc, de l'heure qui nous a été accordée. Rapidement, Maître Maman Bachar, quelles suggestions et propositions pour une meilleure alliance politique au Niger?
Bon, je pense que en termes de propositions, il faut dire aux partis politiques, vraiment, quand ils constituent ces alliances-là, il faut qu'ils s'entendent sur un minimum, c'est-à-dire une espèce de charte autour de laquelle ils doivent s'entendre. La charte liée à l'unité nationale, à la sécurité nationale, à l'intérêt général et à des comportements éthiques dans les pratiques gouvernementales et au respect de la structuration de l'administration. S'ils parviennent à s'entendre sur ce minimum-là et que chacun s'engage à ce que quiconque de ses membres viole justement ces règles-là, on peut les débarquer et continuer avec les autres. Je pense qu'on peut déjà avancer. Voilà. Puisque ce qui se passe dans les alliances, une fois nouées, vous allez voir un membre faire des comportements impensables, mais vous ne pouvez pas le gérer parce que c'est son parti qui l'a amené. Et sur la base de ça, il devient une espèce de cancer dans le groupe. Donc, il n'y a pas une coordination en tant que telle. Et donc, je pense que s'ils parviennent à s'entendre sur un minimum de chartes ou de plateformes de gouvernement sur la base desquelles ils vont fonctionner, ils peuvent nous protéger et ne pas aller dans les excès qu'on a soulevés tout à l'heure.
Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangou qui a porté sur le thème « Les accords d'alliance politique de tout genre à des fins électorales au Niger ». Nous étions donc en compagnie de Dr Soule Hadji, politologue, Maître Mahamane Abachara, juriste et coordinateur du réseau Espérance. Merci donc à nos invités d'avoir répondu dans ce forum. À la présentation, c'est Fatih Zakari, la réalisation Mustapha Ayouba.